Professeur Sebaoun, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Professeur Sebaoun, aujourd'hui nous allons parler d'hématologie, qui je crois est votre spécialité.
Oui, c'est ma spécialité depuis longtemps, puisque j'ai fini un internat déjà en hématologie et que j'ai abordé la discipline en 1974 et depuis je l'exerce.
Professeur, pouvez-vous nous définir cette science médicale ?
L'hématologie, c'est la science qui a trait à ce qu'on appelle les organes hématopoïétiques. Les organes hématopoïétiques, c'est le sang, la moelle, les ganglions, la rate. Donc ce sont toutes les maladies du sang, de la moelle, des ganglions, de la rate.
Professeur Sebaoun, je crois que environ 20% des pathologies de votre spécialité sont des pathologies bénignes. Est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau rapide de ces pathologies bénignes ?
Oui, alors, l'hématologie ne regroupe pas que des, entre guillemets, des mauvaises maladies, puisqu'il y a des maladies du sang qui sont des maladies qui se soignent, enfin, ça ne veut pas dire que toutes les autres ne se soignent pas, mais qui se soignent, qui se guérissent très facilement et qui n'ont aucun caractère de gravité, sauf peut-être pour certaines d'entre elles qui sont simplement un peu ennuyeuses dans la mesure où il peut y avoir des récidives de ces pathologies. Ces pathologies bénignes qui représentent à peu près 20% de la spécialité, ce sont les anémies. On peut avoir une anémie parce qu'on manque de fer, qui est l'anémie la plus fréquente chez la femme notamment, qui correspond habituellement à un saignement qui peut passer tout à fait inaperçu et qui est par exemple une maladie qui se traite parfaitement bien et qui se guérit dans 100% des cas. Ça peut être une anomalie des globules blancs, une diminution des globules blancs qui peut être liée par exemple à la toxicité d'un médicament et qui peut quelquefois donner des tableaux relativement graves avec des infections, mais là encore, qui se guérit parfaitement. Ça peut être aussi une diminution isolée du chiffre des plaquettes. Je rappelle que les plaquettes, ce sont des petits globules sanguins qui servent à la coagulation du sang. Et lorsque il n'y en a pas assez, eh bien, il y a un risque de syndrome hémorragique et que le plus fréquemment, et notamment chez l'enfant et chez le sujet jeune, ce sont des maladies qui sont des maladies auto-immunes, la plus fréquente étant ce qu'on appelle le purpura thrombopénique auto-immun, qui est dû à des anticorps actifs contre les plaquettes et qui sont des maladies qui sont bénignes, qui guérissent toujours chez l'enfant, chez l'adulte qui ne présente pas de caractère particulier de gravité, mais qui ont une fâcheuse tendance à récidiver chez l'adulte. Voilà, ce sont quelques exemples parmi d'autres, puisqu'il y a aussi des maladies constitutionnelles. Dans le milieu méditerranéen, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle la thalassémie. La thalassémie qui peut donner une anémie grave dans sa forme homozygote, mais qui n'est même pas une maladie. On peut dire que c'est simplement une particularité dans sa forme hétérozygote. Malheureusement, le terme de thalassémie est quelquefois abusivement utilisé par les médecins traitants et on parle quelquefois de façon exagérée de thalassémie chez un sujet qui en fait n'a pas de thalassémie mais a justement une carence en fer. Donc l'hématologue a toujours sa place dans des cas qui sont des cas un peu difficiles ou des cas qui récidivent. En fait, le plus souvent, ce sont des diagnostics qui sont mal posés ou des traitements qui n'ont pas abouti jusqu'à leur terme.
Alors, professeur, maintenant, nous allons parler d'oncologie et notamment d'oncohématologie. Au niveau de ce qui est oncohématologie, est-ce qu'on a des chiffres pour la France ?
Alors, on a sûrement des chiffres pour la France, mais bon, je suis bien incapable de vous les indiquer. 80% des patients qui sont vus par les hématologues sont des patients qui relèvent de ce qu'on appelle des maladies malignes ou des maladies néoplasiques. En d'autres termes, ce sont des cancers du sang et des organes hématopoïétiques. Mais là encore, si vous voulez, dans ces maladies onco-hématologiques, il y en a quelques-unes qui sont extrêmement bénignes et il y en a d'autres qui ont des caractères de gravité indiscutables. On peut citer par exemple, parmi les maladies relativement bénignes, la leucémie lymphoïde chronique. La leucémie lymphoïde chronique, son appellation peut effrayer les patients lorsque on doit leur annoncer ce diagnostic. Elle se manifeste par une augmentation du chiffre des globules blancs, quelquefois par une augmentation des ganglions. Mais lorsque on fait le diagnostic précocement, ce sont souvent des malades qui ne donnent aucun souci, ni même qui ont besoin de traitement pendant 8, 10 ans, voire même plus. À l'opposé de ça, il y a des pathologies qui sont des pathologies aiguës. Les pathologies aiguës, comme les leucémies aiguës, qui là, indiscutablement, sont des pathologies qui ont des critères de gravité indiscutables. On dit aiguës parce que, en l'absence de traitement, ce sont des maladies qui ne permettent pas de survivre plus de 3 à 6 mois. Et là, pour des maladies aussi graves, d'autant qu'il s'agit quelquefois de sujets jeunes, on est donc autorisé à avoir des conduites thérapeutiques beaucoup plus agressives. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a toute une série de maladies, les lymphomes, les myélomes, qui sont des maladies malignes, qui se soignent parfaitement, avec plus ou moins de succès selon certaines variétés histologiques, qui ne se guérissent pas toujours, mais qui permettent au sujet une vie très prolongée, avec une qualité de vie non différente d'un sujet qui n'aurait pas d'autres maladies ou qui auraient simplement une affection métabolique ou une affection cardiaque, par exemple.
Professeur Sebaoun, pour être un bon hématologue, quelles sont les qualités requises ?
Pour être un bon hématologue, la première qualité requise, c'est le travail. Il faut travailler. En plus, c'est une spécialité qui a toujours été, depuis une quinzaine d'années, une spécialité en mouvement. C'est-à-dire qu'on y fait des progrès considérables, et ces progrès, c'est des progrès de tous les jours. Il n'y a pas un congrès national ou international au cours desquels il n'y ait pas de scoop. Alors, ces scoops, ce sont des progrès dans la compréhension des maladies, dans la mise en évidence de facteurs pronostiques de ces maladies, dans des nouveaux moyens d'exploration. Et à partir du moment où on fait ces progrès, dans les années qui suivent, ils ont des applications thérapeutiques. Et donc, il y a des applications thérapeutiques qui sont nouvelles. Toutes les années, il y a des nouveautés thérapeutiques et qui sont incontestablement un progrès. Corollaire de ça, si vous ne vous mettez pas au courant, c'est-à-dire si vous ne travaillez pas suffisamment pour l'être au courant de ces progrès dans le mécanisme des affections hématologiques, dans les progrès permis par les applications thérapeutiques, là, vous ne pourrez pas être un bon hématologue, ça c'est clair. Donc, c'est un travail soutenu, un travail permanent qui est la qualité essentielle.
Actuellement, professeur Sebaoun, est-ce qu'il y a beaucoup d'internes qui choisissent cette spécialité ?
Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup pour différentes questions. Et la première question, c'est que va faire l'interne qui va choisir cette spécialité ? Alors d'abord, il va falloir qu'il travaille, comme je vous l'ai expliqué. Et qu'il travaille de façon souvent ardue et qu'il donne de son temps et qu'il donne de ses loisirs aussi. Le deuxième problème, c'est que c'est une spécialité qui n'est pas considéré comme une spécialité validante en ville. C'est-à-dire que faire de l'onco-hématologie en ville, qui représente, je le rappelle, quand même 80% de l'hématologie, n'est pas une activité qui, financièrement, est très rentable. Donc il reste, en fait, le repli dans des fonctions qui sont des fonctions hospitalières. Et ça, malheureusement, le nombre de places est relativement compté et les étudiants, sachant que les possibilités sont réduites, ne choisissent pas volontiers cette spécialité.
Professeur, comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la recherche en hématologie. Est-ce qu'il y a des structures, des unités mixtes de recherche qui sont prisées par les jeunes internes ?
Bien, les étudiants qui vont se destiner à l'hématologie, ce sont des étudiants qui vont se destiner à une carrière hospitalière, soit dans un centre hospitalier général, soit dans un centre hospitalo-universitaire. Et donc, pour être candidat à ces postes-là, ils vont devoir présenter une épreuve de titre, qui preuve de titre qui est basée sur des publications, et publications qui sont basées sur des travaux de recherche. Donc, le passage par la recherche, et en particulier pour cette spécialité, est un passage obligatoire. Alors, il y a de la recherche clinique appliquée, qui est de la recherche sur des protocoles, par exemple, d'études cliniques, mais il y a de la recherche fondamentale, qui est celle qui se fait dans les unités INSERM ou les unités CNRS. Et les étudiants qui se destinent à l'hématologie vont pratiquement tous faire ce qu'on appelle une thèse de troisième cycle, c'est-à-dire qu'ils vont passer 3 années dans une structure de recherche pour faire un travail personnel qui seront la base de leur thèse de troisième cycle. Donc ce passage par la recherche est un passage obligatoire.
Professeur Sebaoun, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie. Au revoir, monsieur.